Oui, alors je précise que je ne suis pas une geek. C'est vrai que chez moi, l'ordinateur n'était pas tabou. Et j'ai eu mon premier portable qui était plutôt intransportable à l'époque. C'était une sorte de grosse valise en 89. Et Anne-Marie Chartier pourrait commenter aussi la situation, parce que je m'occupais à l'époque d'une équipe de recherche qui se consacrait aux livres anciens. Et le plus grand nombre de livres anciens sont bien sûr aux États-Unis, à la Bibliothèque du Congrès notamment. Et quand Internet est arrivé, donc plus tard, eh bien, j'ai tout de suite vu l'intérêt quand même qu'il y avait d'aller farfouiller sur cet outil. Voilà, mais c'est à peu près le seul outil, en tous les cas le seul écran que j'ai chez moi. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, je pense que je vais surtout soulever beaucoup de questions, dans la mesure où je m'y suis intéressée dans le cadre de l'enseignement du français. Alors peut-être qu'on abordera de temps en temps les réseaux sociaux à l'école, puisque c'est comme ça qu'ils sont entrés, mais le plus possible par rapport à la classe. Je vous distribuais la bibliographie sur les éléments que je vais aborder. Les trois premiers documents sont des supports informatiques, peut-être que vous connaissez, je les ai remis quand même. Le français avec l'ETIS, l'EDUCNET, donc avec tout ce qu'on peut faire en ce qui concerne l'écriture, de l'hypertexte, l'écriture collaborative, des blogs, du Web 2 aussi, donc toutes les ressources qui sont mises à disposition des enseignants et des formateurs, qui est très très utile. Et un autre site, EduBase Lettres, qui est la banque de données des sites académiques, cette fois-ci de lettres. Même chose, un nombre de ressources intéressants. Aussi une façon critériée de l'interroger, avec les outils, bon, bien sûr le TBI, ENT, mais aussi le système des blogs, etc. Les autres références concernent, parce que j'en parlerai très très rapidement, enfin même je survolerai la question, le TNI, le tableau numérique, mais en lettres bien sûr, avec deux dossiers qui sont un petit peu anciens déjà, 2008, mais qui sont des travaux de base bon, très très pratiques, avec une bonne réflexion. Je vous ai mis aussi vraiment tout chaud, le plan de développement des usages numériques qui est sorti le 25 novembre, donc j'en ai tiré un exemplaire papier que je laisse là devant. Et qui est le dossier de presse avec les informations qu'on trouve pour la presse, donc pas forcément très professionnelles pour nous, que vous pouvez télécharger et que je vous encourage à regarder. Je m'y attarderai un petit peu tout à l'heure. Et puis, comme on l'avait dit, la liste des ouvrages qui sont recensés sur le site de la VST, que je vous conseille de consulter en ligne, puisque vous pouvez accéder au résumé et éventuellement à l'article s'il a été indexé sur Internet. Avec Sylvain Genevoix, vous entendrez, donc je pense jeudi ou vendredi, nous avons largement commenté les conditions d'utilisation des réseaux sociaux, ce plan de formation qui arrive et qui pose plus de questions qu'on ne pense, notamment pendant le rapport à l'écriture. Se poser la question des blogs et des réseaux sociaux en classe de français, c'est-à-dire dans l'école, c'est un petit peu étonnant parce que vous le savez, vous l'avez vécu peut-être, à l'école, on ne s'occupe pas, voire on interdit bien sûr, les téléphones, les smartphones, Facebook, c'est souvent bloqué, les blogs et Twitter dans les salles de classe et puis sans doute très souvent au CDI. Pourtant, on peut dire quand même que beaucoup de signes montrent que les enseignants sont sur des réseaux sociaux, que les élèves, on s'est habitué à l'idée qu'ils y soient tout le temps, même quelquefois trop, d'après ce que les parents disent, et que ces nouveaux outils ont quand même maintenant une génération, c'est-à-dire qu'on est avec des élèves qui ont quelquefois appris à écrire d'abord sur un écran, plutôt qu'en tenant un papier et un crayon. Donc à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Les enquêtes diverses montrent que Internet est à la fois pour les parents et les enseignants familier et effrayant. Ça reste quelque chose qui fait peur. Et je citerai Barbara Frontard, qui était la sociologue qui a participé il n'y a pas très longtemps à la conférence Educatis sur les réseaux sociaux dans l'école. Quelques remarques sur une enquête qu'elle a faite sur les jeunes et les parents avec Internet. Et pour les parents, dont beaucoup d'enseignants se réclament aussi, Internet est d'abord un lieu dangereux, donc il n'a pas sa place à l'école, et qui est plutôt inquiétant à la maison. Ils craignent aussi, ces parents et ces enseignants, que ça habitue à rester scotché devant l'écran. Alors qu'en fait, on a remarqué, et c'est important en ce qui concerne l'écriture, qu'à partir du lycée, en tout cas, les élèves sont plus sur leur écran d'ordinateur que devant la télévision. La télévision devient pratiquement une pratique générationnelle. Les parents, les grands-parents devant la télévision et les enfants devant l'ordinateur. Cette question de fossé générationnel, on devra se la reposer parce que moi je pense qu'elle est un peu mythique, hein, dans la mesure où ces outils de réseaux sociaux sont maintenant quand même passés dans les habitudes, même dans le vocabulaire. Autre inquiétude, les lycéens s'isoleraient sur Internet, sur leur blog, sur Twitter, sur Facebook. Or, il apparaît qu'ils sont tout à fait capables et même désireux d'être au CDI ensemble, hein, sur leurs écrans, en étant connectés et en commentant, etc., dans un espace public, de relations publiques. Même chose, on sait que pour eux, Facebook et Twitter sont peu perçus comme des réseaux qui doivent remettre en cause leur identité numérique, hein, qui peuvent poser une question de leur visibilité numérique, mais qu'ils sont assez avisés, ils savent très bien sur quelle page ils vont, et ils en font un usage assez critique. En ce qui concerne le jeu, les jeux disparaissent rapidement avec l'âge et sont remplacés par toute leur activité sociale, hein, virtuelle, sur l'écran. Malgré tout cela, les parents estiment quand même, même s'ils sont réticents, qu'il faut qu'il y ait internet à la maison pour pouvoir travailler à l'école. Donc leur justification d'équiper la maison avec des outils numériques vient de pouvoir rester en contact avec le monde scolaire, faire des recherches sur internet, etc. Donc un outil qui est quand même perçu de façon relativement scolaire. En ce qui concerne les supports numériques, hein, la plupart des professeurs pensent quand même qu'ils ont une efficacité pédagogique, hein, en grande partie. En ce qui concerne les réseaux sociaux, ils ne sont plus que la moitié à penser que, oui, ça pourrait servir. Et je pense que c'est une question qui va être récurrente. À quoi est-ce que ça sert et comment on peut s'en servir d'une façon, on va dire, qui serve l'enseignement. Donc, en ce qui concerne mon plan, je vais faire un petit état des lieux du web 2 à l'école. Ensuite, aller un petit peu sur la réflexion, quelquefois théorique, hein. Qu'est-ce qu'on apprend, comment on apprend différemment avec les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il y a sans doute le plus de débats. Je sais que ça a été animé tout à l'heure là-dessus. Et puis, finir par des pratiques de classe qui existent, qui sont minoritaires, bien sûr, surtout en France, mais qui sont l'œuvre de gens qui ont déjà commencé à élaborer une réflexion à ce sujet. Moi, je trouve que le Web 2 concentre dans ce mot toute la problématique. On dit aussi le web social. Donc, c'est quand même un outil qui permet de coproduire du contenu directement en ligne. C'est-à-dire qu'on voit déjà poindre une différence par rapport au type d'enseignement frontal ou de transmission à laquelle on a l'habitude. Et donc si on résume, si on dit le web 2 ou le web social, on peut coproduire du contenu. Ce qu'on fait peut être amendé, corrigé, complété par autrui qui le voit. On peut laisser des commentaires sur les productions d'autrui, sur les blogs, sur les forums. On peut rédiger de manière collective, et ça c'est tout l'enjeu du wiki, qui met à égalité les rédacteurs. Alors, on sait bien, avec des limites, pour le meilleur et pour le pire, quelquefois, avec des réserves, mais c'est l'idée d'écrire ensemble, bien sûr, ensuite d'indexer, de diffuser, et de pouvoir être dans une dimension horizontale avec les gens. Donc, ces interactions montrent bien qu'il y a un gros potentiel et en même temps qu'il est assez déroutant par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire à l'école. C'est pour cela que le dossier qui vient de sortir et dont je vais utiliser une enquête sur le café pédagogique, sur le café pédagogique, c'est appelé le Web 2 et l'école et pas le Web 2 à l'école. Bon, d'abord parce que le Web 2 n'est pas encore à l'école. Sylvain Genevoix me disait qu'une question avait été posée par M. Jarrault lors de la remise du plan numérique sur justement les réseaux sociaux à l'école, puisque ce n'est pas forcément abordé sur les... Dans le plan qui nous est proposé, mais il y a déjà des sites officiels de l'éducation nationale qui s'occupent de traiter les réseaux sociaux. Cette question est importante parce qu'on sort du cadre proprement scolaire des apprentissages, on est dans la sphère éducative au sens large. Les différents acteurs de l'école, ceux qui fournissent ces informations du côté du CDI, ceux qui donnent les contenus et les consignes scolaires du côté des enseignants, sont dans un environnement qui est de plus en plus interactif. Et ce qui est normal pour les élèves. Alors, le café pédagogique est clair, c'est que c'est nécessaire de former les élèves à ces pratiques, puisque ce sera comme cela que demain, ils communiqueront, non seulement, mais aussi ils écriront et ils publieront. Et ils publieront dans un objectif de partage. Alors, l'enquête qui a été faite par le café pédagogique, donc ce ne sont pas du tout mes sources, donc je vous ai bien mis le lien, est intéressante parce qu'elle montre quand même. Donc voilà pour le profil, hein. Des choses importantes, que les enseignants, que beaucoup d'enseignants ont répondu, forcément ils lisent le café pédagogique, ils lisent aussi en ligne, hein, donc à mon avis il y a un petit biais de ce côté-là. Mais si on regarde les questions qui sont relatives à l'usage qu'ils font personnellement du web social, on s'aperçoit que beaucoup d'enseignants, donc, qui sont les items retenus pour les graphiques, collaborent ainsi d'une utilisation. Bon, nous connaissons Weblettre, hein, très souvent, qui est utilisé par les enseignants de lettres. Collaborent à cette académique, prend des ressources, etc. Édite un site personnel, et puis beaucoup éditent eux-mêmes un blog. De façon assez soit récurrente, soit ponctuelle, mais bon, vous savez que maintenant, dès que les enfants partent en classe verte, il y a une page de blog pour que les parents puissent lire ce que les enfants ont fait, et les enfants rédigent à tour de rôle, et ça remplace le petit mot accroché sur la porte de l'école, et c'est fait par les enfants. Donc ce serait plutôt optimiste dans le sens de l'utilisation des réseaux sociaux, les outils sont aussi à commenter. Des listes de diffusion, beaucoup, des sites collaboratifs, Facebook, qui finalement est utilisé majoritairement en ce moment, enfin la tendance qui monte, c'est l'utilisation par des plus de 50 ans, soit qu'ils se rendent compte, un petit peu comme l'exemple de ce matin avec la plume en acier et la plume noire, qu'il faut qu'ils aillent sur Facebook, soit que l'article disait qu'ils aient un peu plus de temps et puis qu'ils aient besoin aussi de relations sociales qu'ils commencent à percevoir comme virtuelles, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur. Donc ce n'est plus vraiment un outil de jeune génération. MSN, et ce qui m'intéresse, c'est Google Doc, qui permet de partager des documents. Donc on voit bien que beaucoup d'enseignants trouvent intéressant déjà d'avoir une relation horizontale avec d'autres gens. Et puis Twitter, sur lequel nous reviendrons, puisque des enseignants, je crois que c'est Claire-Marie qui avait envie de s'y mettre, hein, ont détourné Twitter à des fins éducatives qui sont intéressantes. Alors avec les élèves, on voit qu'on utilise majoritairement le blog, et les élèves seraient premiers à le dire, c'est normal, hein, parce que nous on s'en sert plus des blogs, c'est vieux, c'est dépassé, on a tous notre page sur Facebook, c'est la forme la plus ancienne, la plus acclimatée, la plus institutionnalisée, qu'on retrouve régulièrement. Et puis Facebook est bizarrement le téléphone portable. Alors pas forcément pour écrire, mais quand même une fonction d'interaction avec les élèves. Du point de vue pédagogique, donc beaucoup sont d'accord, hein. Alors là on a une convergence entre ceux qui ont répondu au café pédagogique, donc des utilisateurs quand même du web, et puis l'enquête ministérielle, entre pour ceux qui sont d'accord avec le vecteur pédagogique qu'on reconnaît aux réseaux sociaux. Mais beaucoup ne savent pas. Donc, je pense que dans beaucoup, ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, parce que c'est leurs enfants ou leurs élèves qui se servent des réseaux sociaux. Donc il y a un étonnement là-dessus. Alors la place de l'enseignant est quand même intéressante. Parce que recourir au Web 2, ça modifie considérablement la place de l'enseignant, et notamment le statut du savoir. Alors tous les enseignants qui utilisent les réseaux sociaux sont d'accord pour dire que le gros travail et la grosse difficulté, c'est de pouvoir revenir sur ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que le travail de l'enseignant est très important pour pouvoir mettre en contexte, pour pouvoir avoir une réflexivité sur ce qui est en train de se passer. Mais beaucoup d'enseignants qui se lancent par exemple sur Twitter ont quelques jours d'entraînement à Twitter et ça ne les dérange pas plus que ça. De transmetteur de savoir, l'enseignant devient un guide, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un lien entre toutes ces relations horizontales et que l'enseignant lui sache ce qu'il veut apprendre et comment on peut passer au stade de la communication à quelque chose de plus important. Alors, du point de l'aspect théorique, dans les ouvrages anglo-saxons qui traitent beaucoup des réseaux sociaux, enfin canadiens aussi beaucoup bien sûr, c'est Bakhtin qui revient le plus souvent, avec ses travaux sur le dialogisme, et qui donc ils sont une sorte d'étayage théorique pour les anglo-saxons de l'utilisation du web social, notamment en pédagogie, parce que ce dialogisme montre que la construction du savoir se fait pas à pas entre le maître et l'élève, entre celui qui a priori détient le savoir et celui qui est en train de le construire. Une deuxième référence, là, qui est uniquement anglo-saxonne, c'est Rosenblatt, qui est une littéraire très reconnue aux États-Unis et qui a formalisé ce qu'elle appelle une lecture transactionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on lit ou lorsque l'on écrit, on va donner sens au fur et à mesure à ce que l'on écrit, en sachant ce que l'on lit, de qui on parle, à qui est-ce qu'on parle, et la construction du sens va se faire à deux. Donc, c'est-à-dire tout un réseau qui va se tisser. Alors, ces outils sont considérés de façon très importante, point de vue pédagogique, mais à condition que ce soit bien réfléchi. Et lorsqu'on parle des TIS, on remarque souvent qu'il y a des usages, en fait, qui maintiennent, c'est un peu le point de clivage entre les deux camps, s'il fallait les stigmatiser, des usages qui renforcent une approche traditionnelle, c'est-à-dire, par exemple, avant on cherchait un document dans un manuel, on va le chercher sur le web, mais ça reste la même chose, c'est l'enseignant qui va rester dans la transmission. Et puis ceux qui acceptent de lancer les élèves et eux aussi sur le web. Alors il n'empêche qu'il y a quand même une poussée du web social à l'école, fondée sans doute sur la pratique des jeunes enseignants, qui normalement ont tous reçu une formation en plus au TIS, officiellement depuis 2004, ils savent aussi se débrouiller tout seuls. On peut prendre l'exemple de Facebook, par exemple, qui au départ était vraiment un outil générationnel. Alors, les jeunes sont sur Facebook. Les parents ont essayé de s'y mettre en voulant être l'ami de leur enfant pour aller voir qui étaient les amis de leurs enfants. La littérature est pleine de parents comme ça qui veulent s'immiscer, qui veulent être les copains de leurs enfants. Et de façon très avisée et très, très sûre du point de vue psychanalytique, les enfants ont dit non. Il y a des enseignants aussi qui voient leurs élèves, qui voudraient être leurs amis, donc c'est réconfortant, mais les stagiaires qui veulent être les amis de leurs enseignants. Donc il y a quand même une pratique au niveau des élèves, et quelquefois ils sont assez déçus de s'entendre répondre que non, on ne sera pas leur ami sur Facebook. Ça les étonne, mais ils sont quand même contents parce que leur prof est quand même plus jeune. Hein, s'il est sur Facebook, c'est un signe quand même. Mais donc, ce fossé plus faible que prévu, disent les auteurs. Et on retrouve un petit peu, pour les plus anciens d'entre nous, l'émulation qu'il y avait au début de l'Internet à l'école ou de l'ordinateur à l'école. Hein, c'est-à-dire que c'était tout nouveau, tout beau, et une sorte de connivence entre enseignants et élèves. Dans ce cas-là, le tableau blanc interactif est souvent perçu comme au contraire la cristallisation de la passivité, de l'information qui arrive toute prête et qu'on n'a pas été chercher en réseautant. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça s'inscrit dans des pôles de communication entre la production, comme François l'a évoqué, d'une norme, et donc les outils vont servir à accompagner la norme. Et puis un pôle de communication qui est à l'évidence le réseau social, même si on peut toujours se demander, c'est très important. Par exemple, l'enjeu de Facebook, c'est quand même de dire où on est, de Twitter. Au départ, c'est de dire où on est et ce qu'on fait, de dire ce qu'on fait. Et évidemment, un philosophe s'est tout de suite rendu compte que si on est tous sur Twitter, en disant ce qu'on fait, tout le monde écrit « je suis sur Twitter » et j'envoie un message sur Twitter disant que je tweete. Donc l'utilité sociale, elle est encore à discuter, mais elle existe. Et puis l'autre pôle, qui est le pôle de l'expression, parce que quand même, tous ces réseaux sociaux sont des réseaux de l'écrit. C'est quand même vraiment à remarquer. Alors, ça a été un petit peu théorisé par des différentes approches, j'en citerai uniquement deux. Du côté des TIS, donc des usages et des outils qui maintiennent, voire qui renforcent, parce qu'on a bien sûr une masse d'informations disponibles, une approche traditionnelle d'enseignement, on va dire tant mieux. Wynkin, dans une étude sur l'ordinateur à l'école, a remarqué qu'on pouvait très bien avoir envie de neutraliser l'ordinateur à l'école, soit en ne lui permettant pas d'exister, du vieux matériel, une prise inaccessible, etc. Dans beaucoup de collèges, on a des conditions proches de cette neutralisation, quelquefois. Hein. Soit en remettant les TIS à un spécialiste, qui va être Monsieur TIS, qui va être le seul à pouvoir s'occuper de ces outils et qui va faire un clivage disciplinaire. Et je pense qu'on est beaucoup aussi à avoir remarqué que c'est aussi ça qui peut se passer dans l'école. Soit autre chose qui est aussi normale, après tout, simplement comme un outil pour encoder des travaux écrits, c'est-à-dire une machine à écrire, comme disait Anne-Marie Mercier, moderne, hein, et pour lequel c'est vrai, on devrait apprendre à taper d'une façon adéquate. Hein. Donc ça, c'est une définition de l'ordinateur scolaire qui ne convient pas à tout le monde. Et c'est vrai que le Web 2 vient bousculer tout ça. Ça modifie le rôle de l'enseignant, la relation devient horizontale. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait une réflexivité. C'est pour ça que la formation et l'engagement de l'enseignant est très importante. Et puis, Ben Clair est très optimiste sur l'effet émancipateur du Web 2, justement, par cette mise à disposition des ressources. Tout pays confondu, pays riche, pays pauvre, savant, pas savant, tout le monde peut communiquer et il y voit un effet démocratique puissant, notamment avec la généralisation des logiciels libres, hein, c'est-à-dire le fait qu'on puisse vraiment mettre à disposition gratuitement des moyens d'échanger et du savoir. Alors, le point sur la culture de ces élèves qui pousse apparemment les enseignants à s'occuper de des réseaux sociaux. Alors, on les a appelés, c'est du jargon anglo-saxon, les natifs du digital. Donc, j'ai laissé le mot comme ceci parce que il y a quelques années, presque dizaines d'années maintenant, un théoricien s'est aperçu que vraiment, on avait enfanté des monstres, qu'on n'y comprenait vraiment plus rien. Ce sont ces enfants qui savent plus vite tenir une manette de Wii que la cuillère pour manger leur yaourt. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais si vous tapez sur ce mot sur Internet, vous trouvez beaucoup de documents. J'ai retenu des choses qui me semblent intéressantes. La notion d'horizontalité qui bouscule l'école. Alors, le passage de ces sites que l'on consulte à des sites où on peut produire du contenu et les échanger, toujours par écrit. Le passage aussi d'une pédagogie de la transmission à une pédagogie active. L'élève va vouloir aller chercher, va pouvoir interroger son enseignant sur Twitter, son enseignant ou un spécialiste de la question, hein, par exemple. Et puis, important en ce qui concerne la semaine, le passage d'une conception ancienne à la lecture, puisque j'essaierai de faire une fin quand même plutôt pour les littéraires, aux théories modernes, le lecteur participe à l'élaboration du sens du texte. Bon, ça, c'est tout à fait la démarche de Rosenblatt. Le travail sur les hypertextes, sur la littérature hypertextuelle, part de cette façon de fabriquer le texte avec des moyens pour prendre des informations dans un texte, les remettre, les transformer, etc. Et finalement, on réécrit le texte en fonction des indices et des mises en relation qu'on y opère. Donc, du point de vue du fonctionnement littéraire, ce n'est pas du tout inintéressant de remarquer cette forme d'horizontalité importante. Autre point, c'est l'instantané dans lequel vivent les jeunes, qui peut être déroutante, mais du coup, l'outil est très réactif, hein, et permet aussi de travailler en dehors de l'école, ce qui est peut-être à commenter, hein. L'idée du lien, qui est très importante, y compris avec l'enseignant, mais vous verrez que les Américains commencent quelquefois un peu à se rebiffer, que leur enseignant puisse être sur leur site Twitter, etc. On n'est pas forcément d'accord. Hein. Et enfin, le dernier, c'est la notion d'hypertexte, où le blog, en général le blog, devient un espace où on peut expérimenter le plaisir du texte, dire un texte qu'on a aimé, le voir commenté par d'autres, se voir féliciter par ce qu'on écrit, etc. Alors, après on va dire cette partie qui est vraiment en ré majeur, hein, quelques bémols. Les usages des enseignants. Alors là, j'ai d'autres sources, les sources du ministère de l'Éducation nationale. Il y a une réelle progression des usages. Il y a encore quand même 25% des enseignants qui n'utilisent absolument jamais les TIS, hein, réseaux sociaux ou non, dans leur enseignement. Et parmi eux, ce sont les enseignants français qui utilisent le moins ces ressources. Et c'est aussi les enseignants français qui vont le plus utiliser les TIS comme méga encyclopédie. Hein, trouver un tableau, trouver une illustration pour un auteur, etc. Donc ça, c'est quand même une remarque importante qui me permet de voir aussi sur le clivage disciplinaire qui concerne vraiment les TIS en France. Les usages sont peu fréquents, ils sont très différents selon les matières, hein, et les disciplines font vraiment un poids, hein, dans le qui fait pencher du côté utilisant des TIS ou pas. Actuellement, si vous allez sur les sites des collèges, par exemple, voir qui remplit le cahier de texte numérique, on dirait vraiment que les enfants ne font que des mathématiques, parce que beaucoup de professeurs mathématiques remplissent consciencieusement leur cahier de texte numérique, et sont quelquefois les seuls. Hein. Quelquefois, on a l'impression qu'il y a un professeur dans tout le collège, parce que c'est le seul qui remplit son cahier de texte numérique. Donc des outils qui ne sont pas encore partagés, et je pense que là, il y a une grosse différence avec les pratiques des pays étrangers, où l'enfant a appris à utiliser l'ordinateur au primaire, hein, et donc poursuit son... Enfin, pour lui, c'est une évidence que tous les professeurs qu'il va trouver dans les plus tard, hein, parce que pas tous les pays ne sont monodisciplinaires comme en France, eh bien vont aussi utiliser l'outil Internet. Les autres chiffres que j'ai, c'est ceux du plan de développement qui vient de sortir, qui sont assez optimistes, qui sont 2010 aussi, et qui montrent que, quand même, il y a de plus en plus d'utilisation des TIS, si l'ordinateur veut bien marcher. On y reviendra peut-être. En effet, pour faire du réseau social sur Internet, il faut quand même être équipé. Et en France, alors on pense encore à l'histoire de la plume d'oie, hein, on transmet ce qu'on sait faire, et beaucoup d'enseignants n'ont pas envie de transmettre les TIS, ils ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits, c'est vrai, ils s'en servent relativement peu, mais ils ne sont pas aidés par on va dire, ce qu'ils vont trouver à l'école. Donc j'ai comparé des données européennes, notamment le TNI ou le TBI. En France, pour l'instant, c'est 2% du primaire et 6% de l'établissement. Alors, c'est la source 2010 du Haut Conseil d'éducation. La dernière qui date donc du 25 novembre 2010, qui vient de sortir, fait état de chiffres différents, puisqu'elle dit que près de 60% des collèges disposent au moins d'un TBI-TNI. Donc, je ne sais pas comment l'enquête a été faite. Ou alors, on prend en compte dans cet équipement le nouveau, enfin, la mort du tableau blanc. Hein. Il y a quelques Français qui disent qu'il est blanc. Parce que vous savez que maintenant, vous pouvez avoir un tableau numérique interactif avec la Wii, hein, pour quelques dizaines d'euros. Donc, l'équipement des établissements n'aurait plus posé un problème. Il faut juste demander à un collégien un petit peu dégourdi de prêter sa manette de Wii, et on peut tout à fait avoir un émulateur de TBI. Hein. Oui, je vois. Ah bon, oui, c'est très intéressant, puisque pas plus tard qu'hier, une enseignante de l'INRP me disait qu'elle avait participé à une tombola pour équiper son école d'un TNI. Et... donc ce TNUI, hein, tableau numérique avec la Wii, revient à peu près à 40 euros. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il vous faut ? Il faut un navigateur Internet, hein, il faut la manette que tous les élèves connaissent, hein, il faut un PC avec un module Bluetooth, et puis un vidéoprojecteur et un stylo infrarouge qui se fabrique à la maison. En général, c'est ce que beaucoup d'élèves ont fabriqué en techno, en cinquième. On leur a fait faire un petit outil dans un stylo ou dans une brosse à dents. Voilà. Et on peut l'acheter aussi, mais vous voyez les ouvertures, on va dire, démocratiques que ça ouvre. Hein. L'environnement numérique du travail, c'est aussi très peu des écoles, et presque la moitié des collèges. Et le ratio d'ordinateur est quand même assez faible, même si le document du ministère, apparemment, montre qu'il y a un ordinateur pour 20 écoliers de l'élémentaire, hein, et 1 pour 10 collégiens, donc c'est à peu près ça. Mais si on compare l'équipement d'autres pays, on s'aperçoit que les États-Unis, pardon, j'ai pas pris le chiffre autrement qu'en Europe, qu'au Royaume-Uni, presque toutes les écoles sont équipées. Hein, et moi, j'ai eu l'occasion de se rendre dans les écoles, et c'est vrai qu'ils ont aussi leur tableau vert d'un côté, avec la craie, et ils ont le TBI de l'autre côté, donc ils ne lâchent rien, et ils prennent le moderne, ils gardent l'ancien. Donc il n'y a pas de conflit de valeurs ou d'intérêts, on fait comme c'est le plus pratique. Et j'ai trouvé ça une expérience intéressante. Et en ce qui concerne l'environnement numérique de travail, hein, beaucoup d'écoles secondaires au Royaume-Uni, presque toutes au Danemark, et 100% en Catalogne, de l'école, de la petite école au bac. Hein, tout le système scolaire est équipé. Le ratio d'ordinateur est aussi très élevé. Donc on a peut-être là un début d'explication. Pour avoir envie d'aller sur Internet, il faut aussi avoir un équipement que les gens peuvent avoir chez eux, mais qui doit être directement accessible. Sachant que je vous ai mis la référence d'un article récent qui concerne les États-Unis cette fois-ci, où on propose, notamment pour des raisons économiques, d'utiliser les smartphones des élèves au lieu des ordinateurs. Ce qui n'est pas envisageable pour nous, puisque normalement un élève n'a pas son téléphone en classe, pour effectivement avoir accès aux ressources d'Internet. Donc voilà pour les équipements. Moi j'ai séjourné aussi au Danemark avec François. J'ai été partie pour étudier les supports d'écriture des élèves et je n'ai pas vu un papier, que ce soit dans les écoles primaires ou dans les écoles secondaires. Et le professeur de mathématiques se plaignait un petit peu quand même, parce qu'il a trouvé que faire des formules c'était bien d'avoir un papier. Mais c'est vrai que les petits CP avaient leur petit portable sous le bras, deux par deux. Et donc c'est une logique complètement différente. Alors, on va aller maintenant du côté des formes qui sont utiles ou utilisées dans l'école. Alors, j'ai pris la première forme que j'ai appelée acclimater, hein, le blog. Alors, au Canada, on dit un blog avec UE. Hein. Donc, je trouve c'est une bonne idée. C'est le plus ancien, c'est le plus connu, c'est le plus facile à mettre en œuvre aussi du point de vue technologique pour beaucoup d'enseignants. Hein. Et il y a ici deux chercheurs qui se sont spécialisés, donc Hélène Godinet et Jean-Paul Moirot, que certains connaissent, sur justement l'apprentissage par les blogs. Et alors, leur définition vaut ce qu'elle vaut, mais je la trouve quand même intéressante, un espace collaboratif de construction des connaissances. C'est-à-dire que ce ne sont pas des connaissances ressources, il y a un travail qui reste à faire sur le blog, et c'est un travail qui est collaboratif. Alors, sur les sites canadiens, et d'après les travaux d'Hélène Godinet et Jean-Paul Moirot, le blog favorise le désir d'écrire et de lire. On en a parlé un petit peu hier, parce que déjà, on ne peut y accéder que par écrit. Et d'ailleurs, je m'occuperai de blogs qui concernent l'interaction entre le professeur et les élèves. Et chaque billet peut être composé d'un texte, bien sûr, d'une image, et peut être commenté. Et on est bien dans cette idée d'horizontalité. Alors, je fais une parenthèse, est-ce que c'est toujours bien que tout soit tout su de tout le monde, d'envoyer un Twitter au monde entier? Ça, c'est une question aussi philosophique dont on peut débattre. On a entendu tout à l'heure Anne-Marie Mercier qui parlait de Montaigne dans sa... Chartier. Oui, c'est pas... qui parlait de Montaigne dans sa librairie. Bon, Descartes disait qu'il est dans son poêle pour être tranquille, pour écrire. C'est vrai que nos jeunes ont l'impression qu'ils écrivent d'autant mieux qu'ils savent que le monde entier va les lire. Donc il y a une question sans doute pour le prof de philo ou de sociaux. Hein. Mais c'est vrai que ce blog, pardon, permet de rédiger, de publier, et on sait qu'on va être lu, et on va souvent s'auto-corriger. Alors, l'élève va le faire à sa façon, mais il a conscience qu'il doit écrire pour communiquer. Et s'il veut que son message soit lu, il faut quand même qu'il soit lisible. Ce qui fait que si on regarde beaucoup de blogs d'élèves, c'est plutôt bien rédigé. Il y a très peu de blogs qui sont faits en style SMS, hein, parce que souvent, il y a une flopée de remarques en disant que c'est illisible, que tu pourrais écrire comme il faut, voilà. Hein. Donc c'est intéressant. Ça pose quand même la question de l'identité numérique. Qui suis-je sur un blog? Quand je parle à quelqu'un, c'est quand même différent si c'est l'enseignant, si c'est la classe ou si c'est le monde entier. Mais Jean-Paul Moirot dit qu'on ne peut pas faire abstraction de ces blogs, et il parle d'intrusion des environnements numériques. Hein. Ça montre bien que c'est perçu comme quelque chose qui fait faire un effort à l'école, bien que ces formes soient relativement quand même acclimatées. Hein. Alors, intrusion, on va dire au sens physique, et intrusion aussi dans les processus d'apprentissage, hein, puisque l'apprentissage va se faire avec la collaboration des pairs, avec des essais, erreurs, recommencer, travailler, corriger. Et donc, c'est pour ça quand même qu'on peut remarquer que pour beaucoup d'élèves, la socialisation donne du sens à la lecture et à l'écriture. Un peu comme un écrivain qui n'oublierait jamais qu'il a un public. Alors, peut-être que c'est plus motivant d'écrire pour une autre personne que ses enseignants. Mais c'est une forme importante. Alors, le site canadien, je pense donc je blogue, non, fait à beaucoup de travaux. Par exemple, ils ont des sites pour améliorer l'écriture, des sites qui s'appellent blog du récit, donc tout ce qui tourne autour de la relation à l'écrit. Et une enquête a été faite et on voit que quand même, pour beaucoup d'élèves, bloguer, donc écrire sur les blogs, aide à mieux écrire, déjà donne envie d'écrire. Hein. Et si on écrivait, si on essayait, il n'a plus l'angoisse de la page blanche, il n'a plus l'angoisse du produit fini. Ce produit, on peut l'améliorer soi-même ou on peut attendre les commentaires des autres pour l'améliorer. La dimension, on va dire, relationnelle est importante. Ils aiment écrire pour qu'on leur réponde. Alors, on peut faire ça avec du papier, un crayon, un timbre, on est d'accord, mais c'est vrai qu'il y a une émulation qui se fait. Hein. Et ils sont gentils puisqu'ils considèrent qu'à l'école, c'est intéressant de tenir des blogs, ce qu'ils font par ailleurs. Hein. L'intégralité des élèves admettent faire des efforts pour mieux écrire, hein, et qu'il y a une répercussion aussi sur leurs travaux scolaires. Une fois qu'on a pris conscience que toute la classe va répondre qu'on n'a rien compris parce que c'est mal écrit, on ne voit pas bien ce que les gens veulent dire, on va pouvoir aussi l'assimiler dans des travaux plus académiques, plus normés, plus scolaires. En revanche, vous voyez que la plupart ont un profil sur Facebook, mais peu ont encore un compte Twitter, puisque Twitter est tout jeune, et puis c'est un outil peut-être plus difficile à manier, hein, parce qu'il est uniquement sur du contenu, et que même au Canada, ils sont quand même peu à s'en occuper. Alors si on regarde les différentes ressources, beaucoup d'enseignants considèrent qu'effectivement, il y en a qui disent qu'il faut savoir abandonner le monde d'avant, la littérature qui appartient au monde d'avant, et vers le monde, c'était le monde du livre, hein. Mais tous, s'ils ne sont pas d'accord avec ce point de vue, considèrent que écrire peut faire entrer dans la démarche de la littérature, la démarche de l'écrivain, l'écrivain qui a un public, l'écrivain qui peut se corriger, etc. Alors j'ai mis ici deux sites qui sont vraiment des sites de littérature, qui sont présentés par les élèves, et qui sont très soignés, il y a une qualité d'écriture importante. Le premier, c'est sur l'Académie de Rennes, pour le concours des lycéens, donc un gros volume de lecture, un gros volume d'écriture, et de l'écriture qui est aussi bien du commentaire, du débat, que de la création. Donc il est quand même représentatif de ce que l'on peut faire en laissant les élèves faire. Et le deuxième est très poétique aussi, très esthétique, son haïku. Alors, du point de vue de l'iconographie, on peut peut-être y trouver à redire, parce que c'est vraiment fait dans une perspective très adolescente. Mais regardez la qualité d'expression. Donc c'est un lycée brestois. Ils ont lu un roman, ils y ont choisi des images, ils s'en sont inspirés. Donc il y a une interférence entre diverses sources et entre eux aussi. Hein, et finalement, de jouer le jeu des mots et des images. Donc ce sont des exemples, on va dire, parmi d'autres, il y en a beaucoup de plus intéressants encore. Hein. Et c'est vrai que très souvent, ce qu'on remarque, c'est que le blog désinhibe. Alors écrire aussi tout simplement sur une page web, en sachant qu'on ne va pas raturer, qu'on pourra effacer, ça peut désinhiber aussi. Mais certains ont été contents de savoir qu'ils allaient être lus, qu'ils pouvaient écrire sans être interrompus. Ce qui n'est pas forcément le cas du contexte du cours, parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous ces blogs, tous ces réseaux sociaux scolaires sont accessibles pendant le cours, mais surtout en dehors du cours. Ce qui demande aussi la disponibilité par la part de l'enseignant, mais si l'élève a envie de participer dans la nuit, hein, il peut tout à fait le faire. Et puis, on l'a déjà remarqué, que bien sûr, le rapport à l'écran donne une liberté que ne donne pas le texte, le crayon, etc. Alors, l'autre partie que j'ai choisi de développer pour faire vite, c'était deux autres détournements, cette fois-ci, dans des formes qui ne sont pas encore acclimatées, sont les enseignants qui s'en sont emparés, sachant que je laissais de côté, bien sûr, toutes les connexions qu'on peut faire avec son établissement. C'est pour ça que, je ne parlerai pas de Facebook, puisque Facebook ne sert pas à écrire. Hein. Facebook est très utilisé dans l'école. Il y a beaucoup de lycées qui ont une page Facebook où on peut voir des tas de choses sur le lycée, mais ce n'est pas du tout considéré comme utilisé pour l'instant en écriture. Le premier, c'est Etherpad. Donc un éditeur de... Non, Etherpad, pardon, c'est moi qui ai mis un sentier là, qui n'a rien à faire là. Qui est un éditeur de textes collaboratifs. je vous le montrerai tout de suite. Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent, comme moi je l'ai fait, par exemple, pour avoir une trace un peu génétique, on va dire, des travaux des élèves. On est beaucoup à utiliser le suivi des modifications, par exemple, qui permet de voir que si un élève, si tous les élèves ont raturé 4 fois leur participe passé, il va falloir s'en occuper. Et puis, si les élèves tournent autour d'une expression, ça peut être intéressant d'avoir le suivi. Donc, on a l'habitude d'utiliser déjà Word, tout simplement, pour faire ce genre de travail, on va dire, qu'on peut faire sur le brouillon. Beaucoup d'enseignants laissent aussi leurs élèves utiliser Google Doc, qui permet d'écrire des documents à deux. Souvent, ce sont des expériences malheureuses, parce que c'est l'expérience que j'en ai, c'est des enseignants qui ont vu arriver des documents, des récits, il fallait écrire un compte à deux, présenté sur un document numérique ou sur une page Word, et qui a demandé que ce soit écrit à la main pour être sûr que c'était vraiment un vrai travail. Or, dans une zone rurale, les élèves se sont mis par deux, et bien sûr, ont ouvert une page sur Google Doc, et chacun a envoyé ses petits bouts de documents, et à la fin, ils ont fait un copier-coller du document final, donc c'était pas inintéressant du tout, mais ça n'a pas été perçu comme tel par l'enseignant qui trouvait que finalement, du coup, on pouvait en chercher des petits bouts sur Internet, qui n'avaient peut-être pas tout écrit. Alors que les élèves, naturellement, avaient résolu les problèmes de la transmission, plutôt que de se voir, un qui prend le quart dans un sens, l'autre dans l'autre, et le problème de la création d'un document à deux. Donc, Google Doc est assez utilisé. Celui-ci est encore plus intéressant selon les enseignants qui s'en sont emparés, parce que vous voyez, on peut d'abord écrire un document à 8, donc 8 personnes, un groupe de 8 personnes peuvent partager un texte, l'écrire en commun, chacun a une couleur, et donc le professeur peut suivre en temps et en heure tout ce qui est écrit, et il y a à côté une fenêtre pour que les élèves commentent ce qu'ils sont en train d'écrire. Donc il y a le côté création littéraire, donc là je l'ai pas pris sur un site littéraire, j'ai été prendre sur le site du logiciel. Et à côté, les remarques des élèves, j'y arrive, je n'y arrive pas, pourquoi est-ce que tu as mis ce mot, donc commentant ce qu'il faut ajouter, enlever, etc. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune installation, c'est très facile à faire, c'est en JavaScript, c'est très récent, donc c'est de 2008, mais il y a beaucoup d'enseignants, notamment le site professionnel, puisque c'est là qu'on est souvent confronté à l'angoisse de la page blanche des élèves, que ça sert d'ouverture. Il y a un travail qui se fait en miroir. Si on ne lit que ce qui est écrit en bleu, on saura tout ce qu'a fait cet élève-là. Donc, par exemple, là, si c'est un élève, on verrait qu'il entre beaucoup plus facilement dans l'écriture que celui qui est écrit en vert, qui apporte des choses différentes. Ça pose question parce qu'effectivement, la pensée s'élabore en même temps que celle des autres. Mais ça, je crois que c'est vraiment la grande différence du travail intellectuel sur le réseau social. Et puis on écrit tout le temps devant les autres. Alors peut-être que Rousseau aurait bien aimé, mais il y a un côté quand même dévoilement par l'écriture ou par la difficulté à écrire aussi, parce qu'on n'a pas le résultat qu'on considère le plus abouti possible de son travail. On voit le travail même ce qui est raté, même ce qui ne convient pas. Donc c'est quand même à remarquer. Et les enseignants qui s'intéressent à la génétique des textes travaillent assez souvent avec cette forme de logique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a pu arriver à construire le texte. Alors les enseignants remarquent aussi qu'avec ça ils peuvent aussi travailler sur la langue elle-même, mais c'est surtout aussi pour pouvoir suggérer de pouvoir faire entrer des textes d'autres personnes. Parce qu'une fois qu'on est sur ce site, on peut très bien aller chercher un bout de Balzac ou un bout de Barthes et le mettre dans le texte, et donc pratiquer une sorte d'hypertexte à l'intérieur même du support. Ça pose la question du plagiat, des droits d'auteur, etc. Mais c'est très souvent intéressant que les élèves se nourrissent d'autres textes et puis qu'ils acclimatent pour pouvoir être plus créés comme ça c'est toujours fait, une démarche un peu de palimpseste dans leur propre création. Après, bien sûr, il y a le travail réflexif de l'enseignant qui va remarquer que oui, quand on dit pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, bon, c'est joli, mais c'est peut-être pas l'élève qui l'a trouvé, mais on peut l'utiliser, etc. Alors, il y a un avantage aussi pratique, c'est que si on pense quand même qu'il y a un gros travail de plagiat qui a été fait, il suffit de googliser la partie suspecte, avec beaucoup de subjonctifs, par exemple, la mettre sur Google, et là, on va retrouver des auteurs. Il y a des gens qui, par exemple, qui écrivent du Jules Renard très facilement, ça leur plaît. Voilà. Et donc, ça permet de discuter à ce moment-là de l'interaction, de ce qu'on peut faire ou pas faire sur Internet, et de ce que c'est un auteur ou pas. Voilà pour ce logiciel. Et puis enfin Twitter. Donc Twitter qui est tout neuf hein, dans le paysage. Alors on s'en sert très très peu en France dans le cadre de l'école. Les seuls exemples que j'ai trouvés sont au lycée professionnel aussi. Parce que c'est vrai que 140 caractères, alors c'est aussi un sport d'arriver à dire quelque chose de clos en 140 caractères. Hein, et on s'aperçoit qu'on peut très bien être trop bavard ou qu'au contraire on a du mal à exprimer... à développer sa pensée, mais il y a vraiment une habitude à prendre, c'est vraiment comme faire des mots croisés, c'est un jeu d'arriver à dire quelque chose, si possible d'intéressant, en 140 caractères. Alors, les enseignants qui s'en servent aussi pour passer la barrière du papier, passer la barrière de l'écran, c'est encore trop grand, et souvent passer la barrière de l'école, puisque sur Twitter, on peut communiquer en dehors de l'école. Et donc certains ça leur convient mieux. Alors il y a des exemples en lettres, en histoire-géographie, où la consigne arrive sur Twitter hein, et est reprise par l'élève quand il veut avec un travail de réflexif avec l'enseignant. Beaucoup d'enseignants disent que de toute façon ils ne peuvent pas faire comme si Twitter n'existait pas ou comme si Facebook n'existait pas. Les enseignants remarquent qu'il faut le contextualiser, ce travail sur Twitter, parce que je l'ai noté, l'interface est difficile, parce que c'est 140 caractères, et encore 140 caractères, donc pour avoir le produit fini, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Mais certains utilisent déjà Google Waves, qui résout ce problème, qui permet de voir quand même la suite des idées. Parce que le plus gros reproche qui a été à Twitter, c'est que ça ne servait pas à grand-chose. C'est vrai que les informations n'ont pas l'air fondamentales, mais par exemple, on pourrait très bien avoir annoncé ces journées sur Twitter... Et ça aurait fait un gazouillis donc quelque part, et quelqu'un l'aurait repris, etc. Donc c'est ce fil conducteur qui fait que, par exemple, la BNF est sur Twitter. Si vous avez un fil Twitter sur la BNF, la BNF va vous envoyer des messages sur ses activités, etc. Et l'intérêt de Twitter, c'est qu'il y a, alors l'intérêt, dans ce cadre-là, on est suivi, on suit des gens. Bon, moi, j'aime bien être tranquille toute seule, donc je vous livre l'usage. Hein. Ce qui est très intéressant, important pour les gens qui s'en occupent bien, c'est de savoir qui a répercuté vos gazouillis. Et quel gazouillis vous allez suivre et répercuter. Donc c'est aussi l'intérêt de savoir si quelqu'un écrit quelque chose, est-ce que ça peut me concerner? Si moi j'écris, est-ce que quelqu'un va me lire? Tout ça avec, on va dire, un condensé textuel. Même chose, l'écriture alors est complètement collaborative parce que Twitter peut s'utiliser en réseau fermé, mais ce n'est pas son principe. Le principe, c'est que si quelqu'un a une idée qui traverse la tête, bon, c'est un peu ironique ce que je dis, mais quand même c'est souvent ce qu'on reproche à Twitter, il va le mettre sur Twitter et le monde entier le saura. Ce qui fait que certains élèves ont pensé, par exemple en travaillant sur un auteur contemporain, aller envoyer un tweet sur le site de cette personne, sur le fil lui-même, et avoir des entretiens, même chose, hein, de 140 caractères, avec l'auteur. Chose que l'enseignant n'avait pas imaginée du tout. Parce que c'est vrai que le monde entier est disponible. Alors, quelque chose d'intéressant dans le monde anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle les Twitteries, puisque Twitter, notamment aux États-Unis et en Angleterre, est beaucoup utilisé pour ce qu'on appelle les apprentissages sociaux. Alors beaucoup en langue, mais aussi pour l'écriture. Alors ce qu'on appelle du micro-apprentissage quotidien, en 140 caractères, on peut réviser sa grammaire latine, hein, je suppose, hein, jour après jour, son psautier peut-être, si on est au Moyen-Âge. Et puis dans les activités, il y a aussi l'écriture collaborative. Donc ça s'appelle donc des Twitteries. Ce sont des propositions de récits qui sont données et qui sont faites par la communauté wiki donc de Twitter. Par exemple, à propos de l'enfer de Dante, quelqu'un en 140 mots a dit « Si on réécrivait l'enfer de Dante sur Twitter ?» Et c'est parti comme ça. Les enseignants s'emparent de ce genre de choses. Ça a été fait sur Magicien d'Oz aussi, Twitter of Oz. Et la personne qui commence, n'est pas plus autorisée que les autres. Hein, c'est pas, ça peut être l'enseignant, mais tout ça, ça prend sa forme. Hein. Donc j'ai mis le lien avec ce site parce que c'est intéressant. Hein. Ce site s'appelle « C'est incroyable ce qu'on peut apprendre en 140 caractères hein, ». Donc ça montre bien le travail, on va dire, éducatif qu'on peut faire. Alors, pour finir... Je poserai quelques questions. Hein. Cette génération est habituée aux hypertextes, hein, enrichir, aller voir, copier, coller, ça nous agace beaucoup. C'est vrai que les pays qui sont habitués à ceci à l'école ont aussi tout un matériel pédagogique sur qu'est-ce que le plagiat, qu'est-ce que le droit d'auteur, puisqu'ils ont peut-être anticipé. Hein. Moi, j'aurais envie de dire quand même que ces façons d'utiliser le web social, qui sont un peu déroutantes pour nous, parce que moi, c'est vrai aussi, je me sens du siècle dernier, j'aime bien aussi, bien sûr, tous ces outils. Ça favorise peut-être des façons de lire nouvelles, des façons d'aborder la littérature, notamment la littérature contemporaine, et puis la génétique des textes. Donc déjà, ça me semble un point intéressant. Et pour finir, je vais ouvrir sur quelques questions. Hein. Qu'en pensent finalement tous ces élèves et ses professeurs? Alors d'abord, du point de vue officiel, il est évident que là, on va attendre les résultats de PISA, mais on sait très bien que pour les TIS, les Français vont être sans doute parmi ceux qui auront le plus de difficultés, entre autres. On a bien vu que l'utilisation d'Internet, enfin des outils informatiques et donc d'Internet, améliorerait les résultats purement scolaires. Donc une fois qu'on aura entériné ce constat, on ne pourra pas faire autrement que de s'en occuper. La réserve étant qu'il faudra que la pédagogie suive et que là, il y a aussi une question de formation, puisque en France, en tous les cas, en ce qui concerne les enseignants de langue qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour les langues, ils sont tous en auto-formation. Alors, le ministre rappelait des sites et des projets de formation, et il citait Performance, qui est déjà un site de formation en ligne, c'est ça qu'on va nous proposer, qui permet de se former tout seul, hein, de se former à distance, pour pouvoir aborder les outils en classe. Hein. Aux États-Unis, j'ai déjà dit, même les smartphones sont utilisés à l'école, alors pour des raisons éducatives, des raisons aussi économiques, puisque ça coûte moins cher d'équiper. Hein. Même chose que pour le tableau blanc interactif qui va finalement disparaître. On n'a plus en avoir besoin puisqu'on a cette ressource. Et puis les finalités aussi pédagogiques. Mais j'ai quand même trouvé une enquête intéressante où on demande aux élèves ce qu'ils en pensent. Et en gros, pour les élèves, Facebook, c'est quand même à eux. Hein. L'intrusion des réseaux sociaux à l'école, quelquefois, ils le perçoivent plutôt de l'extérieur. Hein, c'est-à-dire, c'est l'intrusion des enseignants dans leurs outils de partage favoris, hein, qui sont déjà utilisés avec tout ce qui concerne les ressources en ligne, le cahier de notes en ligne, les connexions diverses au site académique, etc. Voilà, donc je pense que ça soulève plus de questions que ça n'en pose, mais je pense qu'il faut aller voir les collègues qui se sont lancés dans ce genre d'initiative. Parce qu'en France, ça reste rare, si l'ordinateur marche.